réorganisation et il faut expliquer comment on va atténuer l'impact sur l'emploi. C'est-à-dire que quand on fait des suppressions de postes, grosso modo, vous supprimez un poste d'opérateur, vous pouvez en avoir 100 dans une usine et puis après, vous avez des gens. Dans cette partie-là, on parle des gens. Donc les postes d'opérateurs, ils peuvent être occupés par des intérimaires. Il peut y avoir des gens qui ont des CDI dessus, des CDD, enfin. Le plan de sauvegarde de l'emploi, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre ces postes et ces gens. C'est généralement ça qu'on voit apparaître dans la presse, c'est tant de suppression de postes, tant de licenciements secs. Donc c'est comment à la fin on va avoir géré ce problème. Par exemple, dernièrement, je crois que Air France a annoncé des suppressions de postes, mais a indiqué qu'il n'y aurait aucun licenciement sec. Donc comment est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont faire partir peut-être les intérimaires. Ensuite de ça, ils ne vont pas reconduire les CDD. Ensuite de ça, ils vont proposer peut-être des formations aux gens. Ils vont regarder les gens qui vont partir à la retraite. Est-ce qu'ils vont pouvoir peut-être anticiper un peu la retraite? Donc c'est ce qu'on appelle la pré-retraite. Ça fait partie des populations pour lesquelles on essaie d'amener une solution. Vous pouvez faire partir toutes sortes de personnes. Normalement, une entreprise qui fonctionne correctement sur la gestion des ressources humaines, elle n'a pas à garder, entre guillemets, des canards boiteux. Il y a différents cas. Il y a des gens qui ont des maladies. Il faut voir si la maladie a été traitée en termes d'handicap. Est-ce que ça correspond à un handicap? Et dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui ne font plus le boulot depuis longtemps. Enfin, il faut essayer de traiter le problème qui fait plus le boulot. Enfin, il faut traiter ces situations-là. Ils vont aussi voir qui est-ce qui veut être volontaire. Et on va offrir en effet un certain nombre de moyens, d'incitations pour que les gens partent.
Moi, je suis rentré à 17 ans dans cette entreprise. Quand je suis rentré, que j'avais 17 ans et demi, ils m'ont dit, tu rentres dans une grande famille.
Gérard.
On va s'occuper de toi, on va te protéger jusqu'à ta retraite. Et puis là, je vois qu'ils me lâchent.
Là-bas, si j'y suis, 30 avril 2009, à Grenoble. Et
là, c'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent. C'est un coup de couteau dans le dos qu'ils me mettent, carrément. Voilà. On me dit, bon, ben, t'as 50 ans, c'est fini, maintenant, tu dégages. Tu dégages, on ne te veut plus. Voilà. C'est comme ça que je le prends, donc je leur en veux par rapport à l'éthique qui a Caterpillar. Moi, j'ai conditionné toute ma vie autour de Caterpillar. J'ai travaillé les heures supplémentaires, les horaires, la flexibilité dans tous les domaines. Et puis maintenant, bah, j'arrive à 50 ans, je fais quoi?
Vous, votre premier plan social, comment ça s'est passé?
Ben en fait, je suis arrivé dans l'entreprise pour aider la direction dans ses aspects communication, l'aider à faire la négociation. Enfin, j'étais là vraiment comme conseil.
Et est-ce qu'on peut nommer cette entreprise ou pas?
Alors, je pense que ça présente assez peu d'intérêt. Bon, c'est une entreprise dans les semi-conducteurs. L'entreprise voulait fermer une usine dans la Bretagne. Voilà. Le DRH lui-même l'a assez mal vécu. Il était, je dirais, déjà très affecté par la rupture du dialogue qui existait. Enfin, il a dû être arrêté. Il a été malade.
Et donc, c'est vous qui avez pris sa place?
J'étais arrivé là tout à fait sur le principe du consultant. Et j'aurais jamais pensé que je deviendrais DRH. Et au demeurant, j'avais pas du tout la formation pour le faire.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 38 ans. Et donc la procédure s'est quasiment uniquement passée sous l'angle un peu juridique. C'est-à-dire que pour convoquer un CE, il fallait faire un référé. Pour arriver à discuter, il fallait quasiment venir avec un huissier. Enfin, c'est pas des conditions de dialogue particulièrement agréables. Le dialogue s'était tellement radicalisé que tout le monde était en grève. La gestion courante, elle se réduisait à pas grand-chose. Enfin, en tout cas, vous n'avez personne qui produit. C'est une situation qui est assez terrible pour tout le monde parce que ça vous focalise complètement sur le seul sujet qui est la fermeture, la restructuration. Je peux vous dire en tout cas que le jour où il y a une grève, ils ne parlent plus que de ça. Donc c'est vrai que là, vous avez des gens qui vivent encore plus mal cette situation. Et en fait, on est resté avec des gens qui pendant... donc moi, je suis arrivé en janvier et en juin, il s'est terminé. Donc c'est-à-dire qu'on a fait les licenciements en juin. Si vous voulez, pendant ces 6 mois-là, ils n'ont quasiment pas travaillé. Ils étaient quasiment tous en grève, sachant qu'ils étaient payés. Je dirais que ce n'est pas un plan que je qualifierais de réussi. Ça a donné lieu à énormément de procédures juridiques qui, au demeurant, ont été gagnées par l'entreprise. Mais ça, c'est pas le fond du sujet, c'est que les gens, en fait, sont restés dans le conflit pendant des